Life is full of what-ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? UnitedHealthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Tu vas pas me sauter dessus? Tu vas bien?
Ouais, ça fait bon heureux.
Salut.
Un café? Un verre d'eau?
Génération podcast.
Génération podcast.
Génération podcast.
Génération
podcast.
Génération.
Génération podcast.
Podcast.
Génération podcast.
Génération podcast.
Aujourd'hui, on enregistre un épisode un peu spécial, puisque nous sommes dans un lieu aussi insolite que incroyable. Un studio de podcast mobile dans un van aménagé en compagnie de Caroline Franquet, qui est venue me rejoindre dans le perche chez mon papa. Caroline a eu cette idée un peu folle, mais aussi terriblement excitante de créer un studio de podcast mobile. Il y a de ça, il me semble, un an. On va y revenir, un studio à part entière et pas juste un camping-car avec des micros. Et aujourd'hui, ça y est, le studio mobile de son petit nom est dispo à la location. Caroline a plusieurs cordes à son arc et l'entrepreneuriat ne lui fait absolument pas peur, a priori, puisqu'elle est cofondatrice de plusieurs entreprises, parmi lesquelles Deepster, qui aide les passagers à faire valoir leurs droits, ou encore Workling, qui organise des sessions de coworking et de co-living dans des villas spectaculaires. Mais en fait, à la base, son truc à Caroline, bah, c'était le droit. Rien à voir. Bienvenue Caroline dans le Perche et merci beaucoup d'être avec moi.
Salut Anne-Fleur, avec plaisir.
Alors Caroline, on a eu l'occasion de faire un petit peu connaissance avant d'appuyer sur enregistrer, j'en suis ravie. Combien de vies professionnelles as-tu eu avant d'arriver aujourd'hui ici dans le Perche?
C'est une bonne question. Sincèrement, j'en sais rien. Oui, j'étais juriste avant de me reconvertir à l'entrepreneuriat. Donc on va dire, allez, j'ai été juriste, j'ai lancé une première boîte et puis en fait, après, depuis que j'ai goûté à l'entrepreneuriat, pour moi, c'est toujours le même métier. Exactement. Et puis pour moi, c'est toujours le même métier au final. Mmh. C'est juste que j'aime apprendre plein de choses, j'aime faire plein de trucs, donc j'adore avoir plein de projets différents. Et même là, en ce moment, j'ai encore d'autres projets carrément différents qui sont toujours là, quoi.
Comment est-ce que le podcast est arrivé dans ta vie, du coup, enfin, je veux dire, de juriste à entrepreneur, à podcasteuse et même créatrice de studio de podcast, enfin, la ligne ne paraît pas complètement évidente, alors raconte-moi.
Pas du tout. C'est absolument pas évident, en effet, je te confirme. Oui, j'étais juriste et en fait, j'ai participé du coup en interne, il y avait, voilà, ils organisaient un genre de hackathon. Donc c'est,
interne dans la boîte où tu étais, du
coup. Oui, exactement. Mm-hmm. C'est un hackathon où tu crées des boîtes pour les salariés, enfin, c'est les salariés qui proposent des idées de boîtes. Bref, ce hackathon s'est très bien passé pour moi. J'ai remporté le premier prix sur le prix entrepreneuriat par rapport à la boîte que j'avais en tête, qui est donc Deepster. Et c'est comme ça que voilà, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. D'accord. Ça m'a donné envie, ça m'a donné, on va dire, la motivation. Et puis, assez.
Puis, tu te rends compte que c'est possible, en fait.
Voilà, exactement. donc, j'ai créé cette première boîte-là. Et puis, après, au final, il y a eu le Covid qui est arrivé entre temps, parce que cette boîte était pas mal lancée, ça marchait bien. Et le Covid est arrivé, plus d'avions, plus rien, zéro, niette. Le truc qu'on avait, que personne n'avait vu venir sur les avions. Et en fait, à un moment donné, j'étais donc incubée avec Cosa Vostra, avec Mathieu Stéphanie, et il fallait que je venais d'acheter un appartement, et donc j'avais pas le choix.
Situation
il fallait
pas évidente.
Voilà, il fallait qu'il y ait de l'argent qui rentre à la maison. Donc j'allais reprendre un boulot classique. J'en parle à Mathieu parce que ça me fendait le cœur d'arrêter ma boîte, mais j'avais pas le choix. Et là, il m'a gentiment proposé de rejoindre Génération Do It Yourself en test pour d'abord faire moitié-moitié au début, et puis après on est parti sur du plus long terme. Donc j'ai commencé le podcast avec Mathieu. Donc
et qu'est-ce que tu faisais alors dans Génération Do It Yourself?
Je m'occupais de la post-production. Ouais. Pas mal, tu vois, un peu couteau suisse. Au final, ce que je continue de faire beaucoup pour mes clients, d'être assez couteau suisse. Donc une fois que l'épisode était enregistré, une grosse partie copywriting, les textes, tu vois.
Les textes de description dans les applis de podcast.
C'est ça, exactement. Okay. Tout ce qui était description, écouter les épisodes, en faire des résumés, les mettre sur les réseaux sociaux, sélectionner les bons passages. Et avec une casquette qui est un peu gross aussi, qui était vraiment comment est-ce qu'on arrive à augmenter l'audience de Génération Do It Yourself, mm-hmm. réfléchir à des choses un petit peu voilà, atypiques pour essayer d'augmenter les écoutes. Donc voilà, j'étais plus sur la partie après que l'enregistrement soit passé, tout ce qui se passe derrière, on va dire.
Jusqu'à la mise en ligne.
Jusqu'à la mise en ligne, exactement. Jusqu'à la mise en ligne d'un épisode.
Trop cool. Bah, c'est sympa, non, parce que du coup, tu as pu mettre un premier pied dans le podcast, en tout cas côté faiseur et pas juste écouteur.
Carrément.
Bah, par un podcast qui avait déjà pas mal de traction, donc t'as dû apprendre beaucoup de choses assez rapidement.
J'ai appris énormément de trucs. Moi, je connaissais rien au podcast. Enfin, j'étais auditrice en fait de Génération Do It Yourself de mon côté. J'écoutais aussi d'autres podcasts de mon côté, mais je m'étais jamais plus intéressée que ça au podcast. Ouais. Et là, j'ai pris une énorme claque de podcast. Ouais. C'est sûr, j'ai appris énormément de choses et ça a été une bonne école, quoi.
Alors, est-ce que tu as un type, parce qu'on a quand même beaucoup de gens qui sont dans les podcasts qui nous écoutent. Coucou tout le monde. Est-ce que tu as un type, je sais pas, un truc dont tu es, je sais pas, le plus fier ou le truc qui t'a le plus surpris, que vous avez mis en place et qui en fait a bien marché pour on parlait de growth justement à l'instant?
Ouais, il y a le truc qui vraiment aujourd'hui ma petite fierté, c'est que j'ai insisté auprès de Mathieu pour qu'on crée les fameux extraits qui sont en fait des extraits des épisodes, et aujourd'hui, je le vois repris sur beaucoup de podcasts et quand j'en parle, il y a beaucoup de podcasteurs qui disent ah ouais, on a vu que Mathieu faisait ça, donc on a fait ça.
Ah, trop bien.
Et voilà, et pour moi, en fait, il y avait un double objectif qui était premièrement de donner envie aux auditeurs d'aller écouter un podcast qui est parfois très long chez Mathieu. Mm-hmm. Donc juste en mettant un petit extrait de 10 minutes, on peut se rendre compte un petit peu de quoi va parler l'épisode. Et puis il y avait une réflexion un peu supplémentaire aussi qui était potentiellement pour du sponsoring de podcast, de aussi pouvoir sponsoriser ces extraits-là qui ont des écoutes différentes, qui ont un axe...
Tu veux dire vous les publiez dans le flux RSS?
Ouais,
ça que tu veux dire. D'accord.
Ouais.
Ah, ok, ouais. Ah oui, d'accord. Donc comme ça, tu fais des mini bandes-annonces, des
exactement.
Mini teasings
que tu peux utiliser. Ouais.
Donc je pensais du coup, moi, sur les réseaux sociaux.
Ah ouais, non. Ça, des captures, on va dire, d'épisodes, bien évidemment, sur les réseaux sociaux. Mais là, non, c'est vraiment un extrait de 10 minutes à 15 minutes, 10 à 15 minutes.
Ouais, ce qui est vachement pertinent, parce que pour les gens qui connaissent pas forcément Génération Do It Yourself, c'est des épisodes qui peuvent durer généralement entre 2-3 heures. Enfin, c'est hyper long, quoi.
Exactement.
Donc ça te donne comme ça une bonne... Et c'est des extraits que tu montes, enfin, genre tu prends plusieurs petits morceaux dans un épisode?
Non.
Ou tu prends vraiment 10 minutes
10 minutes uncut, un passage, tu vois, et ça va être, je sais pas moi, un tel sur tel sujet, tu vois, ça va être... Voilà.
D'accord. Ah, cool. Ok, écoute, on note. Merci. On a parlé... de ce lieu dont on va parler un petit peu plus maintenant. Comment t'es venue l'idée du studio mobile? Alors du coup, si j'ai bien compris, c'était en novembre 2021.
C'est ça, exactement. Ouais. Ça fait donc un an.
Ouais.
Ça me fait marrer de voir en fait que ça a pris en même temps un an et en même temps que un an.
Ouais.
Entre le moment où j'ai eu l'idée et le fait qu'on enregistre vraiment là-dedans.
Et je suis trop fière parce qu'on est le deuxième épisode enregistré dans le van.
C'est ça.
Trop bien.
En fait, l'idée m'est venue parce que j'ai vu Mathieu quand enregistrait avec certains invités, la difficulté parfois d'avoir les invités qui viennent. Et en parallèle, moi, j'ai développé mon podcast. J'ai mes invités et en fait, j'ai été frustrée personnellement de ne pas toujours avoir mes invités en face de moi. Je suis indépendante à mon compte. Je pourrais, me rendre chez eux, aller les voir et enregistrer chez eux. Mais parfois, ils ne sont pas toujours à côté d'une gare, pas toujours à côté d'un aéroport. Enfin, ça demande quand même
une certaine... budget.
Voilà, exactement. Il y a la question du temps et la question du budget. Et je me suis dit, mais en fait, le truc qui serait vraiment trop chambé, c'est que j'ai mon studio avec moi tout le temps. Et du coup, je suis assez pleine d'idées. Et en fait, je me suis dit, pourquoi est-ce que je ne créerais pas un studio mobile, quoi? Et en fait, c'est parti un peu de cette idée-là, un peu un petit délire perso. J'ai contacté des personnes qui aménagent des vans. Je leur ai demandé si c'était possible. Et puis, on a étudié le projet ensemble.
Ils avaient déjà fait quelque chose comme ça? Ils avaient déjà
pas
pensé?
Du tout. Ouais. Non, ça les faisait grave marrer. Ouais. Et donc, toutes les équipes, parce qu'ils sont, ils sont assez nombreux, donc c'est Van Designers qui s'est occupé du studio.
Okay.
C'était le studio mobile, le studio podcast, et ça faisait marrer tout le monde. C'était un chouette projet pour eux aussi. Donc nous sommes assises dans le salon qui est le coin d'enregistrement podcast où en fait au-dessus de nous et sur les parois on a des plaques qui sont des plaques phoniques pour permettre d'avoir un son qui soit bien doux. Donc c'est toutes les lattes en bois qu'on voit en
fait. Et c'est quoi comme bois, tu sais ou pas?
Aucune idée. Okay. C'est une bonne question.
Excuse-moi.
Autant les meubles, il y a de l'épicéa et après tout le reste c'est de l'épicéa, mais okay. C'est pas. Je pense pas que ce soit du chêne. J'y crois pas trop. Mm-hmm. La table est en chêne, le plan de travail est en chêne. Mm-hmm. Donc voilà. Donc on est là dans la partie vraiment enregistrement, ouais. Derrière la cabine de derrière le poste de conduite.
Ouais.
Ensuite, si on prend à gauche, on a une petite cuisine avec un évier, un four, des plaques. En face de cet évier, en face de cette cuisine, on a la douche. Donc on va dire la salle de bain, puisqu'on a la douche et les toilettes. Mm-hmm. Les toilettes sont sur rail. Donc, en fait, ça permet à la douche d'avoir un vrai espace douche, okay. Et de ne pas tout le temps avoir les toilettes sorties.
Ouais.
Et tout au fond du van, vers les portes arrière, mm-hmm. On a le lit pour dormir. Voilà. Et quelques petits rangements un peu partout au-dessus. Et puis, il y a une niche pour Tokyo, mon chien qui m'accompagne dans mes aventures. Voilà,
d'accord.
On a fait le tour.
Génial, génial, génial. Tu connais des équivalents, même à l'étranger, ou des choses comme ça, ou à ta connaissance, c'est le premier du genre ?
Aucune idée. Franchement, j'en ai aucune idée. Je pense que ça existe pour tout ce qui est, bien évidemment, professionnel, tu vois, des équipes, télévision,
oui, genre,
radio.
T'as le van CNN qui vient devant chez toi.
Mais le petit côté indépendant, mm-hmm. Et c'était ça qui était important pour moi, c'était aussi de permettre à des indépendants d'avoir
c'est
accès. Ouais, exactement. Donc, en tout cas, je sais pas si ça existe. Je me suis pas trop posé la question, je me suis dit, allez, let's go, on y va.
Ouais. Et alors, du coup, comment est-ce que tu as imaginé même financer ce projet ? Parce qu'il y a cette idée. Est-ce que c'est un hobby qui ne doit pas être donné ?
Non, je te confirme.
Il faut le payer, ce van. Après, il faut payer l'aménagement,
ouais.
L'équipement aussi. Enfin, ouais. Comment tu t'y es prise ?
Alors, ça, c'était en fait assez drôle, on va dire. C'est qu'en fait, en gros, si tu veux, chez Van Designers, ils ont une grosse demande depuis le Covid,
ouais.
Pour aménager des vans parce qu'ils font du super boulot. Bah, comme tu le vois, c'est du bois. C'est du fait main. On est en effet pas sur un camping-car en plastique. Voilà, y a un vrai côté chaleureux à l'intérieur en plus. Et ils ont de plus en plus de demandes. Donc moi, quand je les ai contactés, ils m'ont dit, ok Caro, bah en fait on a un slot. C'est genre, faut que tu nous donnes ta réponse pour janvier. Et en gros, on a fait un premier devis avec le budget et tout. Faut que tu trouves ton camion, machin, etc. Ok. Et en fait,
donc tu viens avec ton camion.
Ouais, viens avec ton camion et eux font l'aménagement. Bon, ils t'aident en fait à chercher le camion aussi, parce
d'accord.
que quand ils connaissent rien comme moi. Il y a un moment tu ok super je dois trouver un camion mais t'apprends plein de trucs hein. Ça du coup j'ai appris plein de trucs, je suis overcalée maintenant en camion, et c'est drôle tu vois parce que je vois dans la rue, du coup j'ai des réflexes de ah tiens genre je regarde les camions différemment, bref. Et en fait j'ai pas trop eu le choix, si tu veux, de je me suis dit bah ok let's go quoi, je leur ai dit ok on y va, ok je le fais, et ensuite je me suis dit, bah je trouverais bien un moyen de faire financer ce machin là ce qui était peut-être pas très malin, et quelque part en même temps,
bon,
c'est, je
même
pense
temps,
que tu vois, c'est ce qui m'a poussé du coup à le faire vraiment.
Ça t'a permis d'avancer rapidement.
Exactement.
Quoi.
Et en fait, voilà, donc j'ai signé le projet sans avoir les financements, et après j'ai galéré pour les financements.
C'est vrai, raconte comment ça s'est passé. Parce que du coup, tu l'as financé avec tes économies initialement ou...
Alors en fait, j'ai versé des acomptes avec de la trésor de ma boîte, mais l'idée quand même c'était d'avoir. Parce que donc c'est la boîte hein, qui est propriétaire du van.
Et laquelle de boîte du coup
Ma boîte à moi, avec laquelle j'accompagne les clients podcast.
Qui est quoi ? Elle a un nom ou c'est
c'est mon nom à moi, donc elle a pas un nom.
D'accord.
Voilà, mais et en fait donc c'est comme j'accompagne mes clients podcast, tu vois, c'est pour mes clients podcast aussi parce que j'ai potentiellement des clients qui pourraient être intéressés, etc.
Ouais, bah ouais.
Donc voilà, c'est lié à ma boîte et en fait le truc c'est que donc j'avais un peu de trésor mais pas non plus de quoi financer tout le projet. Mm-hmm. Et donc j'ai des potes qui m'ont gentiment dépanné le temps que j'arrive à trouver un prêt. Et puis en fait j'étais un peu, tu vois, chercher à tous les râteliers quoi. J'ai vraiment pris tout ce que je pouvais prendre. J'ai mes parents aussi qui m'ont aidé un petit peu, sur une petite enveloppe à droite à gauche, et finalement j'ai réussi à trouver un prêt auprès d'une banque qui croyait au projet.
Et alors, il est souvent difficile de faire comprendre à des gens qui n'écoutent pas de podcast ce qu'est un podcast. Mais alors, leur expliquer le projet podcast et de van aménagé, tu t'es un petit peu ajouté des difficultés.
Ouais. En effet, non, mais je te confirme, c'est complètement ça. Surtout qu'en plus, au niveau des banques, donc la période est ce qu'elle est. Parce qu'entre-temps, entre le moment où j'ai eu l'idée et le jour où nous sommes, il y a eu une petite crise économique qui a pointé le bout de son nez, et ce qui fait que c'est devenu très compliqué d'emprunter. Donc, j'étais au milieu en plus de tout ça. Et chez les banques, j'étais en effet pas dans les références du tout des analystes comment on calcule le risque sur un projet comme celui-là, et où en fait le projet potentiellement les intéressait, ils trouvaient ça assez original, ouais, et pourquoi pas, et machin, et nanny. Mais en fait, à chaque fois, c'était un non parce que je rentrais pas dans les cases.
Ouais, d'accord.
Voilà, donc en fait, bah, c'est tout simplement une super, et je la remercie, Alexia, qui c'est une super conseillère pro qui m'a fait confiance, qui a défendu le projet, ouais, avec voilà, une petite structure où en fait, on n'est pas sur une grosse banque, et du coup, ça a été validé.
Ça
assez...
joue en ta faveur, ouais, quoi.
Exactement.
D'accord. Ouais. Et tu te sens à l'aise ou pas de partager un ordre d'idée, ouais, un ordre de prix de... Enfin, ça coûte combien, un truc comme ça pour
Je suis hyper à l'aise de partager même le coût total du van. Ouais. En gros, le camion, il y en a pour 30 000 euros, juste le camion, l'achat du camion, ouais, qui est en occasion. Et ensuite, sur l'aménagement, il y a 60 000 euros d'aménagement.
Oh la vache, d'accord, ok. Ouais. Ah ouais, donc c'est un sacré investissement. Quand
ouais, bah en fait, il y a énormément de matériel, ouais, déjà. Et ensuite, il y a beaucoup d'heures de travail, de menuisier, de ouais, pose, ouais, de tout petits détails.
Et puis tout est fait sur mesure.
Ouais, tout est fait sur mesure, c'est tout du bois. Donc ouais, en fait, c'est énorme. Le temps passé est
c'est
énorme.
C'est quoi ça? C'est un écran?
Oui, c'est un écran pour vidéoprojecteur, exactement.
Ah, c'est génial. Il y a un trou dans le toit, en fait. On voit un slot et on peut tirer du coup pour descendre.
Exactement.
Trop bien. Trop, trop bien. Tu vas nous faire la visite juste après. Alors, du coup, une fois que tu as donc ce prêt, que vous travaillez donc sur l'aménagement de ce van, est-ce que l'ambition du projet, est-ce que ta visualisation en fait, de ce que tu allais faire de ce projet a évolué en un an? Enfin, tu vois, entre le jour où tu as eu l'idée et finalement le jour où tu as validé les plans, le jour où tu as reçu le van, comment est-ce que ça a évolué?
Carrément, ça a complètement... En fait, au début où moi j'ai eu l'idée, je me suis dit, putain, mais ce serait trop cool et tous les podcasteurs qui pourraient en bénéficier et genre on pourrait faire des podcasts et machin et tout. Et j'étais plus, tu vois, voilà, dans cette énergie-là. Mm-hmm. Et ensuite est venu le deuxième temps où tu structures un peu plus le projet, tu structures ton financement, exactement, tu structures le financement, machin, mm-hmm, etc. Et donc là, j'ai d'autres parallèles qui sont venus se rajouter, mm-hmm, et j'ai pris plus mesure de ce que j'étais en train de créer à ce moment-là, quoi.
Ouais. Je sais que la première fois qu'on s'est parlé, moi j'étais ça va être quoi? Ça va être je peux louer un studio à la demi-journée, ouais, ou un truc comme ça. C'est beaucoup plus ambitieux que ça, en fait, toi, ta vision du studio mobile.
Oui.
C'est si ça peut se faire, pourquoi pas, mais c'est surtout... j'avais noté ça? Ce n'est pas à l'heure, c'est à l'aventure.
C'est ça. Hé, hey, grave, trop bien, j'adore. C'est exactement ça. Ouais, ouais. Non, en fait, c'est mon idée. Oui, je pourrais le louer pour des enregistrements de 2 heures. Mm-hmm. Maintenant, j'estime qu'en fait, dans les grandes villes, il y a maintenant des studios d'enregistrement qu'on peut enregistrer ou avec du matériel, etc. Et c'est en effet pas ce pourquoi j'ai construit le studio. Ce que j'aimerais vraiment, c'est plutôt pouvoir donner l'opportunité à des personnes qui ont des idées de podcasts un peu différents, tu vois, de pouvoir les réaliser et donc d'aller, par exemple, voilà, voir des vignerons en France, les interviewer, être au plus proche en fait des personnes, remettre de l'humain aussi, parce que je trouve que dans un podcast on a eu une super montée des podcasts, et puis il y a eu le Covid aussi qui est arrivé où on a enregistré à distance, et en fait on a perdu ce lien qu'on a aussi quand on enregistre et qu'on, je sais pas, pour moi le lien s'entend à l'audio.
Ah bah bien sûr.
Et je trouve ça trop important, en fait, la connexion qui se crée pendant que tu enregistres. Et donc voilà, donc c'est quelque chose que j'ai envie que les gens aussi puissent avoir, et puis pouvoir donner vie à des podcasts un peu novateurs, un peu plus sympas. Ouais, donc l'idée est vraiment là.
Et donc du coup, c'est quelque chose que toi, tu pourrais faire. Tu as des idées de podcasts, c'est pas ça qui manque, tu as d'avoir 12 idées par jour de nouveaux podcasts que tu pourrais lancer. Mais c'est aussi du coup faire que le van en fait devienne partie intégrante en fait d'un podcast de quelqu'un d'autre, quoi. Donc que ce soit j'ai besoin d'être seule pour écrire un podcast, je vais à la plage pour le faire, je vais dans le van, ou je vais aller explorer, je sais pas, les chemins de Croatie en van, et je vais pouvoir du coup bénéficier de tout ça.
Carrément. L'idée, c'est vraiment d'avoir un espèce de... Et ça me fait rire, en fait, de voir qu'aujourd'hui, potentiellement, j'ai créé mon ma petite production, tu vois. Genre,
c'est génial,
j'ai mon entreprise de production.
Ouais.
Mais l'idée, en fait, c'est vraiment ça. C'est aussi bien... alors, on parle des podcasteurs, mais c'est aussi applicable aux personnes, tu vois, qui sont créateurs de manière générale, tout ce qui est musique, qui veulent partir s'isoler une semaine, prendre du temps pour eux. Parce qu'en fait, j'étais avec un pote qui est musicien et qui m'a dit, mais Caro, mais attends, mais le son, il est trop bon, je suis trop bien, je peux partir m'isoler, faire mes chansons et tout, écrire, machin, jouer de la gratte. Voilà, donc oui, moi je l'ai pensé pour les podcasteurs. Après, il peut y avoir d'autres applications.
Ouais.
Et l'idée, c'est vraiment de proposer à des gens de partir une semaine, deux semaines, un mois, trois mois, s'ils ont envie, de louer le studio et de se dire, ok, bah, soit je bosse, en effet, je me mets un peu, tu vois, un petit défi de me dire, allez, j'ai une semaine et pendant une semaine, je m'y mets à mort et j'enregistre et machin. Ou alors, quelqu'un qui a un projet un petit peu plus ambitieux et qui se dit, ouais, je sais pas, pendant trois semaines, je me fais le tour des vignobles pendant les vendanges et je vais
interviewer. T'as un truc avec le vin.
Non, en fait, c'est un exemple qui parle bien, tu vois.
C'est vrai, c'est vrai.
Mais oui, j'adore boire et manger.
T'as bien raison. Mais du coup, comme ça, en fait, le van devient un des personnages principaux du podcast aussi. Quoi,
aussi,
c'est ça.
Ouais.
C'est chouette.
Et donc, le van a un petit nom, il s'appelle April.
Ah, mais j'allais te demander justement s'il avait un petit nom. Pourquoi April ?
April, parce qu'en fait, c'est la journaliste dans les Tortues Ninja qui a un petit van.
C'est vrai. C'est la rousse, là.
Ouais, avec sa combinaison jaune. Et le van des Tortues Ninja est, lui, vert.
D'accord. Kaki. Ah, mais comme le tien, parce que là, vous ne voyez pas, mais le van est vert kaki. C'est ça. D'accord, c'est génial. En tout cas, tu as fait sensation hein, en arrivant au quartier. Comment est-ce que tu as évalué le besoin ? Donc, je comprends du coup que tu as dû te lancer, etc. Mais bon, après, justement, pour obtenir ces financements auprès de la banque, comment est-ce que tu évalues aujourd'hui à qui ça va parler ? Comment est-ce que tu vas réussir ? Parce que c'est un peu... Maintenant, tu as un truc génial et c'est réussir à trouver les gens qui vont se lancer, qui vont prendre le pari de vivre... une aventure avec...
Eh ben, en fait, cette question-là, je ne me la suis pas posée.
D'accord.
Je me suis dit, moi...
Qu'est-ce que tu as vendu à la banque, alors ?
Ouais, en fait, alors, j'ai un business plan, ça c'est sûr, avec, tu vois, la possibilité de louer le van pour des enregistrements solo, pour des gros projets. Donc, j'ai quand même pour ambition de réussir à avoir des gros projets sur du van itinérant, avec un podcast qui fait un petit tour de France, etc. Ça fait quand même partie de mes objectifs. Je pense que c'est jouable et possible, il n'y a pas de raison. Et en fait, c'est ça que j'ai vendu à la banque. Donc, soit de la location pour du van sur deux semaines, une semaine ou quoi, soit de la location pour du gros projet. Mmh. Donc là, il y a un gros billet qui rentre, mais il n'y en a qu'un par an,
ouais,
on va dire.
Ça. Mmh.
Et aussi la possibilité, parce qu'en fait, le van est pensé pour du podcast, mais est aussi pensé pour télétravailler dedans.
Ouais.
Et donc, la possibilité de le louer pour des personnes qui n'enregistrent pas, mais qui voudraient partir un peu se mettre au vert pour télétravailler, parce que donc, il y a Wi-Fi, il y a de quoi... Enfin, tu vois, il y a un panneau solaire, donc en fait, tu peux recharger ton ordinateur tout seul. Enfin, t'es autonome, en fait. Ouais. À partir du moment où il y a du soleil, t'es autonome sur l'électricité. Et donc, en fait, tu peux partir télétravailler tranquille. T'es au calme, isolé, au vert. Et donc voilà, c'est un peu tout ça que j'ai vendu à la banque.
Trop bien. Et d'ailleurs, tu peux te garer n'importe où, du coup, avec un van comme ça en France.
Ouais, en fait, t'es considéré comme une voiture. Alors, t'as une carte spéciale, donc t'es camping-car. Mais tu peux vraiment aller partout. Tu vois, et puis après, en fait, c'est la taille en longueur, en largeur ou bon, en hauteur aussi, où tu es limité.
D'accord.
Mais dans les villes, tu peux carrément rentrer dans les villes. C'est juste après. Bon, c'est pas très drôle, c'est pas très agréable à conduire
parce
qu'il y a plus agréable que de conduire un grand machin. Et encore, la taille est à peu près OK. Tu vois, moi, je suis à l'aise avec les voitures. Il n'y a pas besoin de permis spécial ou quoi. Et maintenant, je me débrouille bien. C'est juste que bon, c'est un gros truc. Qu'en plus, comme tu le sens, en fait, que c'est à. Tu vois, tu te dis potentiellement, il y a des trucs, faut faire attention à bien tout ranger avant de prendre la route. Voilà, ça demande quand même une petite organisation. Mais sinon, tu vas partout.
Est-ce que, donc tu nous as dit un peu pour qui, est-ce qu'il y a des gens pour qui tu penses que ça ne collerait pas ?
Faut quand même être un petit peu débrouillard.
Ouais.
Tu vois, le van est hyper confortable, c'est clairement un van de luxe.
Ouais.
Parce que
c'est pas le Ritz.
Mais non, il y a des choses. Tu vois, je vais prendre un exemple. Avant d'arriver, il m'est arrivé un problème avec la bouteille de gaz. C'est bête, mais en fait, c'est des trucs où c'est chiant parce qu'il faut, tu vas t'arrêter, il faut penser à certaines choses. Il y a quand même deux, trois petits trucs à vérifier. Donc, il faut quand même avoir un petit esprit d'aventure, même si c'est super confortable. Il faut être à l'aise avec le fait que potentiellement, il peut t'arriver une petite merde, que tu peux t'embourber, que tu peux... Ouais. Ça m'est jamais arrivé.
Il faut laisser de la place à l'imprévu, quoi.
Voilà, exactement.
Pas, ouais.
Si tu veux clairement quelque chose comme à l'hôtel, passe ton chemin, quoi. Ouais. Après, par contre... Il y a aussi un petit côté où ça fait bizarre de dormir les premières nuits.
Si
tu pars, que tu n'as jamais fait de dormir dans une voiture, quoi, dans la rue ou même dans des endroits. Il y a deux, trois trucs un peu comme ça à appréhender en plus. Alors, si tu vas juste enregistrer et que tu te prends un hôtel, easy. Là, franchement, super facile. Il faut avoir un petit goût de l'aventure quand même. Après, rien de compliqué, vraiment. Ouais. Et encore une fois, c'est super confortable. On
est bien, là, il fait chaud même, alors qu'il fait, je sais pas, 0 0 dehors.
Ouais, cette nuit il faisait moins 3 et moi j'ai eu chaud quoi. Donc voilà, enfin, il y a vraiment.
Parce que ce qu'elle vous dit pas, c'est qu'elle a un matelas chauffant.
C'est voilà. Hyper confortable.
Moi même chez moi, j'ai pas ça.
Mais ouais, faut aimer l'aventure quand même.
Ouais. Ouais.
Et rouler, accessoirement.
Ouais, accessoirement, tu m'étonnes. Ça coûte combien, en fait
À la location ?
Ouais.
C'est vraiment, en fait, en fonction du projet.
Ouais, de la durée.
Ouais, de la durée, exactement, de si jamais on va loin ou pas. Mais en moyenne, on est sur du 150 euros la nuit. Ça dépend, voilà, s'il y a du matos, ouais. Si jamais il n'y a pas de matos, ouais. Si jamais c'est... Bon, bref, mais en moyenne, c'est ça.
Ok. Et tu as un site sur lequel on pourra suivre justement les différents podcasts qui seront créés dans le studio de Moby.
Alors, je n'ai pas encore eu le temps de créer ce site, mais oui, le site va arriver. Ouais. Pour l'instant, moi, j'ai mon site sur mon podcast. Et après, sinon, là où je mets le plus d'infos en ce moment, c'est vraiment sur mon LinkedIn. Et le plus simple, c'est de me contacter sur LinkedIn, de m'envoyer un petit message. Mais j'aimerais, oui, réussir à sortir un site prochainement. Ça s'appellera April Prod, puisque du coup, voilà, c'est lié au podcast. Et c'est donc ma petite maison de production.
Trop bien, trop cool. Est-ce que du coup c'est ton activité principale, du coup, donc ça fait partie de ta boîte de consulting?
Ouais.
Tu peux nous décrire en fait justement ce que fait ta boîte, puisque du coup c'est pas que le van?
Ouais. Moi, j'accompagne mes clients en fait, qui ont des podcasts à développer l'audience de leur podcast. Vraiment, j'ai pris une spécialité podcast depuis que j'ai commencé à travailler dedans, parce que je trouvais ça vraiment chouette d'accompagner des podcasteurs. Ça vient aussi nourrir chez moi une envie de toujours apprendre, de toujours découvrir des nouveaux projets, etc. Donc ça, c'est vraiment très chouette.
Ouais.
C'est mon activité principale. Et après, je m'amuse à avoir des petits projets entrepreneuriaux pour moi, voilà, de mon côté.
Vas-y, raconte.
Non, mais par exemple,
tu peux pas me laisser comme ça.
Mon podcast à moi, tu vois, c'est purement du kiff, on va dire. Ouais.
Ça tu peux nous en parler de ton podcast d'ailleurs, parce qu'on l'a pas mentionné au micro là.
Donc mon podcast s'appelle La Biohackeuse et en fait je pars à la découverte de médecine non conventionnelle et de comment, enfin l'idée c'est vraiment de dire aux gens que c'est important de prendre soin de sa santé et qu'il faut être acteur de sa santé, ne pas seulement écouter ce qu'on veut bien nous faire entendre, mais aussi tester sur soi certaines choses pour voir est-ce que ça nous fait du bien ou non. Et en fait juste remettre un petit peu de prise de conscience sur sa santé. Et un des objectifs du podcast, c'est de nous rendre plus performants au quotidien.
Plus acteurs de notre santé.
Ouais, c'est ça, mais avec une petite notion de performance quand même pour en fait pouvoir mieux vivre et avoir plus de temps pour soi. Donc voilà, c'est un peu l'idée. Et donc je pars interviewer différents invités qui s'intéressent. Tu vois, j'ai eu des invités donc, sur la marche pieds nus, c'est un gros sujet parce que depuis je marche pieds nus. J'ai beaucoup de personnes qui me posent plein de questions parce que je marche pieds nus dehors, j'ai fait des randonnées pieds nus, enfin voilà, pas.
Il faut que j'aille écouter, c'est bizarre.
Mais c'est aussi sur des nouvelles techniques qui sont utilisées pour soigner les cancers en France. Enfin voilà, c'est vraiment très varié. Et de ça, j'aimerais... Ouais, moi j'adore les projets entrepreneurs, j'ai pas mal d'idées. Et du coup, tu vois, par exemple, suite à donc, mes découvertes de marche pieds nus et de pieds nus, j'ai été confrontée à un problème où je trouvais pas une bonne crème pour hydrater mes pieds. Donc là, je suis en train de faire développer une crème pour pouvoir commercialiser une crème.
Mais t'es incroyable. Ah oui, d'accord. Donc, problème, action, réaction, quoi. Toujours.
Ouais, voilà, exactement. Okay,
d'accord. Alors, tu nous as dit que tu étais une des auditrices de Génération Do It Yourself, que c'est donc ton premier boulot dans le podcast. Hein,
oui, clairement.
Mais est-ce que tu te souviens de comment est-ce que toi t'es arrivée dans le monde du podcast, que t'es auditeur?
Oui. En fait, c'était avec ma première boîte, donc Deepster, et j'écoutais Génération Do It Yourself tout simplement le matin pour me motiver, en fait, parce que quand t'es entrepreneur et que tu montes ta boîte, il y a vraiment des jours où c'est compliqué. Et d'avoir des histoires de personnes qui ont réussi, qui t'expliquent comment ça s'est passé, qui te racontent tout ce qu'elles ont vécu, et voilà, en fait, c'est hyper inspirant et ça te donne la patate le matin pour aller taffer. Donc, c'était mon petit rituel, en fait, en voiture ou dans les transports. J'écoutais mon épisode en deux fois, trois fois, enfin, souvent, parfois même. Un épisode me faisait plutôt une semaine, parce qu'ils sont longs. Mais j'aimais bien.
Il y en a deux par semaine, c'est ça ?
À peu près. Je prenais mon 20 minutes d'épisode le matin, 20 minutes le soir, et puis c'était un petit peu mon petit rendez-vous avec moi-même avant d'aller bosser ou en rentrant du boulot. Genre, bon, j'ai passé une journée de merde, bon, c'est pas grave. Voilà. C'est comme ça que je suis tombée dans les podcasts.
D'accord. Et est-ce que, je sais pas, genre, il y a un épisode, puisqu'on parle de ce podcast-là, qui t'a super marqué, qui t'a, je sais pas, appris quelques trucs, qui t'a donné envie de te lancer, ou il y a des conseils, même, je sais pas, que t'as découvert, que tu t'appliques encore aujourd'hui ?
C'est dur parce que vraiment pour le coup,
il y en a beaucoup.
Ouais, y en a beaucoup. Et puis comme j'ai bossé là pendant, tu vois, autant quand j'étais auditrice, tu vois, il y en avait voilà deux trois comme ça qui me marquaient un peu plus que d'autres. Notamment, je sais qu'il y en a un qui m'avait beaucoup marqué quand j'étais auditrice avec Marc Simoncini. Mm-hmm. Mais après là, comme j'ai bossé en plus, tu vois, sur le descriptif, sur les titres, donc tu vas vraiment chercher plus loin que juste quand t'es auditeur passif, on va dire. Je sais qu'il y en a un avec Marie Eklund qui m'a beaucoup marqué.
Tu veux de dire pourquoi ?
Oui, parce qu'en fait, c'est une femme qui a pas mal d'idées aussi, qui est entrepreneur, qui a son fonds aujourd'hui, un fonds à impact, qui s'intéresse à beaucoup de sujets et qui voit les choses vraiment de manière différente dans l'entrepreneuriat, qui a cette vraie ambition qu'on sent réelle et profonde, d'avoir de l'impact, mais pas de l'impact pour avoir de l'impact, tu vois. C'est vraiment aider au quotidien des gens, en fait. Et ça, je trouve ça chouette. Et un peu des... Je pense que dernièrement, c'était plutôt des épisodes comme ceux-là qui m'ont beaucoup marqué. J'ai aussi Antoine Fine en tête, c'est pareil, c'est un fond. Où en fait, c'est comment, concrètement, quelles actions concrètes ils apportent au quotidien pour les entrepreneurs, pour les non-entrepreneurs aussi. Et pas juste du greenwashing comme on peut en voir un petit peu dernièrement. Donc ouais, c'est des épisodes comme ceux-là qui m'ont plutôt marqué. Mais t'en donner un, c'est hyper chaud.
Ouais, t'as quand même bien géré. Alors, du coup, en étant auditrice active, je veux dire régulière, etc., et en partant travailler après pour ce même podcast, est-ce que tu continues à l'écouter, enfin, parce que j'imagine qu'il y a un moment, en fait, où, je sais pas, ça te ruine pas le truc, mais tu vois, tu vois tellement les coulisses que tu les écoutes pas avec la même innocence finalement qu'avant, j'imagine, les épisodes.
Oui, alors c'est vrai. Et c'est très vrai. Depuis que j'ai arrêté de bosser avec Mathieu, parce que voilà, on avait envie tous les deux de tester des nouvelles choses, j'ai arrêté d'écouter Génération de Future Self pendant un bon moment. Et là, tu vois, ça fait peut-être 2 semaines que j'ai
réécouté. Tu reprends la route avec le van, là.
Ouais, c'est ça. Non, mais c'est vrai, j'ai eu un vrai besoin de faire une vraie pause de podcast parce qu'en fait, c'est très intense de bosser sur des épisodes de 3 heures avec 2 épisodes par semaine où tu prends du podcast tout le temps, en fait, et t'as l'impression que ta vie, c'est du podcast. Et moi, j'ai vraiment besoin de mettre en pause mon cerveau pour justement laisser place à cette créativité, à ces idées que j'ai. Et mon échappatoire, c'est la musique. Et j'avais besoin, en fait, de pas réfléchir à ce que les gens me racontaient dans mon casque, de vraiment mettre en pause mon cerveau. Et donc, ça fait, au final, peut-être aller 2-3 semaines là que j'ai repris un peu les épisodes de Génération Do It Yourself et même les podcasts de manière générale.
Est-ce que tu as écouté des podcasts en arrivant là ici aujourd'hui ? Arrête, raconte, t'écoutais quoi ?
Bah alors c'est assez basique et classique, mais j'ai écouté Les Baladeurs.
Ah, mais c'est super, t'as écouté quel épisode ?
J'ai écouté l'épisode avec, je crois qu'il s'appelle Thibaut, où il part en fait, il fait Paris-Marseille à pied.
Ah oui, d'accord.
C'est hyper, inspirant d'une autre manière. Ça me donne envie de moi aussi. Enfin, j'ai pas mal cette envie d'aventure.
Pieds nus, du coup.
Pieds nus, franchement, ouais, carrément. Franchement, ouais, ça rajoute un beau challenge. J'aime bien. Non, parce qu'en fait, potentiellement, tu as moins mal aux pieds en fait en étant pieds nus quand t'as
l'habitude. Qui est complètement contre-intuitif. On est d'accord.
Carrément. Mais franchement, ouais, c'est pas bête comme idée. Donc j'ai écouté celui-là hier soir, du coup, parce que j'étais aussi sur la route hier soir. J'ai écouté celui avec Mélusine, qui est une femme qui part à moto dans des pays pour interroger notamment les femmes sur leur rapport à la liberté.
Quel est ton dernier binge ? Est-ce que tu vois, genre, je sais pas si c'est une série ou un one shot, le truc que tu as le plus peut-être partagé à tes potes, tes amis, faut absolument que vous écoutiez ça, c'était quoi ?
Ouais, il y a des musiques comme ça que j'aime beaucoup partager avec 2-3 potes parce que je suis assez il y a un style de musique que j'aime bien qui est un peu du disco, du funk et quand je trouve un nouveau son en règle générale avec un peu de disco, un peu de funk, je le partage à 2-3 potes.
Donc ça, tu j'aime bien. Tu balances un nom de truc
Franchement, j'ai découvert du Habibi funk. Donc c'est du funk arabe. Voilà, c'était assez drôle. Enfin bref, je l'ai pas mal écouté. Et après, sinon non, c'est plus série, carrément. Je suis du genre à binger une série parce que, en fait, j'ai des grosses périodes où genre, je ne vais pas du tout regarder la télé. Et puis d'autres où je vais m'y mettre. Et là, s'il y a une série ou un truc que j'aime bien, je vais y aller à fond. Et la dernière série que j'ai vraiment bingée, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais c'est une série sur Netflix avec l'actrice qui est pareille dans Downton Abbey. J'ai oublié son prénom. Mais c'est une série...
Moi, je suis absolument nulle en termes de pop culture.
Moi, je retiens jamais. Mais bon, une série Netflix. Il y a une dernière que j'ai bingée, Reco d'un pote, Le Monde de Demain. En coproduction avec Arte, où en fait, c'est l'histoire du groupe NTM.
Ah, j'en ai entendu parler. Il paraît que c'est super.
Très, très chouette.
D'accord, ok. Est-ce que il y a un conseil qu'on t'a donné, je sais pas si c'est quand tu as lancé ton propre podcast, quand tu t'es lancé dans l'aventure du van, les deux, ou un truc que tu dis justement à tes clients qui cherchent à développer leur audience, que tu aimerais que plus de gens sachent?
Ouais, alors je sais exactement ce que je vais te répondre, je le dis. Tu vois, c'est un truc, je pense que je ne l'ai jamais partagé et je ne le dis pas forcément à mes clients.
Okay.
C'est un conseil que m'a donné une psy qui, en fait, tu vois, compare un peu notre vie avec une... Et ça rejoint quand même beaucoup un coaching business que j'ai fait dernièrement et une cliente que j'accompagne. Mais notre vie est un peu comme une autoroute. Et en fait, il est possible de prendre il est possible d'aller sur des aires d'autoroute avant de reprendre l'autoroute, tu vois. C'est con. Mais donc, c'est possible de s'arrêter. Et souvent, en fait, quand on part, on sait où est-ce qu'on arrive. Et donc, se faire confiance, en fait, sur ce chemin de l'autoroute et se dire que c'est pas grave si on a arrêté sur l'air, parce qu'on va repartir. Mmh. Et donc, il y avait cette première image-là. Et puis, du coup, c'est via cette image, elle m'a emmenée sur est-ce que je me fais confiance ? Oui, non. Est-ce que je sais que je vais m'en sortir ? Oui, non. Et en fait, oui, je me fais confiance. Oui, je sais que je vais m'en sortir. Donc, je sais que ça ira.
Ouais.
Et ça, c'est un driver que j'ai beaucoup au quotidien. Et donc, c'est typiquement... ce qui s'est passé avec le van, j'étais en mode je me fais confiance, oui, je sais où je vais, oui,
je signe, j'ai pas
donc,
de thune, ok,
voilà. Non mais c'est ça en fait, c'est vraiment ça, et c'est vrai que parfois c'est un peu inconscient au sens pas très réfléchi. Beaucoup de personnes sont stress pour moi. Ils me disent, ah,
et toi, ça va.
Et en fait, je sais pas, j'ai un bout de moi, tu vois, qui dit, je m'en suis toujours bien sortie, je m'en sors toujours, je sais que ça ira. Et au pire du pire, vraiment, tu vois, j'ai cette réflexion, je m'en suis toujours bien sortie, je sais que ça ira. Et au pire du pire, c'est quoi mon plus gros risque, en fait, là-dessus?
Oui, c'est ça.
Au pire du pire, ça marche pas comme je veux, j'ai perdu un peu de thune, franchement, je m'en fous, parce que j'ai vécu un truc génial en attendant, j'ai appris énormément de trucs, ça, c'est important pour moi. Et je le revends. Et voilà. Et voilà, c'est tout. Le risque, au final, il est là, quoi. Ouais, donc, c'est pas très gros.
Ça permet de mieux visualiser et de calmer le jeu par rapport au risque. Et alors, tu me disais qu'avec tes clients, tu les accompagnes beaucoup dans le développement des audiences, c'est ça? Qu'est-ce qu'une bonne audience? Moi, c'est une question qu'on pose tout le temps. Mais Anne-Fleur, je fais, tant d'audience. Est-ce que c'est bien?
Eh ben, en fait, c'est très drôle parce que j'ai eu la discussion il y a 3 jours, je crois, avec un prospect, où en fait, je disais... arrêtez de regarder vos chiffres parce qu'en fait ça ne sert à rien. Enfin, ça peut être un driver, ça peut être un bon KPI à suivre, mais en fait ça dépend de qu'est-ce que vous voulez faire du podcast. Pourquoi vous avez ce podcast-là ? À quoi il vous sert ce podcast-là ? Si t'as pas beaucoup d'écoute, mais qu'en fait toi déjà tu prends ton pied. J'ai envie de dire, c'est le principal. Après, il ne faut pas que tu t'épuises à la tâche à avoir un podcast qui ne te ramène rien, qui vraiment ne te donne ni notoriété, ni influence. Enfin, ça ne sert à rien. Mais du coup, moi, je n'ai pas de réponse non plus à qu'est-ce qu'une bonne audience. En fait, c'est l'audience que tu penses être bonne pour ton podcast en fonction de l'objectif de ton podcast. Et même souvent, ce que je dis, c'est qu'il faut avoir un objectif qui est supérieur à son podcast. Pour moi, le podcast, c'est vraiment un outil pour arriver à quelque chose et ça ne peut pas être une fin en soi nécessaire. Quoi.
Alors, c'est quoi les objectifs autour du podcast ?
Avec mes clients, souvent, tu vois, ça reste un axe de communication.
Ouais.
Donc, c'est un moyen de gagner en crédibilité, voilà, de gagner en influence, de se poser comme expert sur un sujet. Et puis, accessoirement, de kiffer aussi, tout simplement, tout seul. Tu vois, j'ai des clients, en fait, ça les fait kiffer d'enregistrer leur épisode toutes les semaines. Quoi. Et un peu comme une thérapie quelque part. Et en fait, c'est cool. Et ça suffit.
Et là, en fait, tu travailles surtout avec des indépendants, des entrepreneurs qui se lancent ou
Je travaille... moi, mes clients, là, c'est 99%, 100%. 100% de mes clients sont indépendants. Il y en a qui arrivent à se rémunérer via leur podcast. Pas tous. Mais d'une manière indirecte ou plus ou moins directe, c'est le cas, quand même.
Et alors, on parlait, parce qu'on s'est pris un petit café avant de revenir dans le van, on parlait justement... De monétisation. C'est difficile à dire parce que j'allais dire c'est le nerf de la guerre, mais en même temps ça l'est pas. C'est-à-dire que on a tous des factures, on a tous envie de valoriser notre temps et Dieu sait que le podcast ça consomme et ça prend beaucoup de notre temps, notre énergie, même du temps de manière passive, c'est-à-dire même sous la douche, je pense à mon podcast régulièrement. Enfin, je veux dire voilà. Mais en même temps voilà, se rémunérer par un podcast, surtout. En ayant ça en tête dès le moment où on se lance dans le podcast, c'est parfois un peu naïf, c'est un peu difficile. Est-ce que tu as des conseils justement à donner là-dessus? Quelles sont les choses peut-être que tu as
Avec tes clients? j'ai deux trucs, moi, vraiment qui s'opposent, en fait. Donc, c'est assez drôle, mais j'ai accompagné des clients qui ont lancé leur podcast From Scratch, qui n'avaient pas d'épisode et qu'on a réussi à financer.
Donc, dès le premier ?
Dès le... Avant même que le premier épisode soit lancé. Okay.
Je veux des noms.
Donc oui, c'est possible. Ouais. Mais c'était possible parce qu'il y avait déjà aussi une bonne audience sur Instagram. Ouais. Il y avait quand même des choses qu'on pouvait mettre en avant auprès de potentiels sponsors. Mais c'est possible. Et je pense sincèrement qu'il est possible de sponsoriser son podcast, même si on n'a pas une grosse audience, même si on n'a pas tout ça. C'est jouable. Ça dépend du podcast, ça dépend du sujet, ça dépend de la thématique, ça dépend de plein de choses et que ça demande quand même un peu de temps en termes de prospection. Il faut avoir les dents, quoi. Il faut vraiment avoir envie d'aller chercher un peu d'argent. Mais c'est possible. Donc cet exemple, j'aime bien le donner aussi parce que pour montrer que c'est possible. Mais à l'inverse, il y a aussi d'autres podcasts qui ont beaucoup d'écoute, que tu vas aller sponsoriser et qui au final ne vont pas ramener tant d'argent que ça. Versus le temps employé. Moi, souvent, je me situe un peu entre les deux et il faut faire attention. Oui, c'est possible. Faut pas, en fait, je pense qu'il ne faut pas que ce soit une fin en soi. Et je pense qu'il faut, c'est pour ça que je dis toujours essayer de voir plus gros que juste le podcast. Qu'est-ce qu'il va vous apporter? Comment il s'inscrit dans votre stratégie de communication, dans votre stratégie tout court pour développer votre business? Est-ce que ça peut être un point d'entrée pour vous, pour votre client? Est-ce que, enfin, voilà, et essayer de le voir comme un asset à part entière dans l'entreprise.
Caroline, pour terminer, est-ce qu'il y a quelqu'un que tu aimerais entendre dans Génération Podcast ? Ça peut être une personne en particulier, ça peut être un podcast en particulier, ça peut être un métier, puisqu'on essaye de s'ouvrir de plus en plus et de ne pas juste parler aux gens qui sont derrière le micro. Est-ce qu'il y a, je ne sais pas, quelque chose qui te vient en tête ?
Oui, par rapport, en fait, moi, j'aimerais bien entendre quelqu'un qui fait de tout ce qui est son et habillement sonore, en fait.
Habillage,
habillage sonore. Pour comprendre comment ils construisent une musique en fait par rapport à, tu vois, c'est pas juste sur ok bon voilà on instrumentalise le truc, mais je me suis posé notamment la question hier en écoutant les baladeurs où il y a toujours un petit, tu vois, un petit tambour, un petit truc, un petit machin qui fait monter la pression en fait, qui te tient.
Alors
en haleine.
Ça, je t'invite à écouter un épisode exceptionnel que j'ai trouvé exceptionnel. C'est pas moi qui ai fait l'interview, c'est Nicolas Parodi qui est le fondateur de Son et Merveille, qui est à Montpellier, et qui a interviewé Solène Moulin qui a composé la musique du Cœur sur la table, les couilles sur la table, chez Binge, et qui raconte en fait justement comment est-ce qu'elle construit la musique, comment est-ce qu'elle compose pour la voix en fonction en fait du contenu de l'épisode, comment est-ce qu'elle crée du suspense, comment est-ce qu'elle crée de la tension, etc. On pourra alors en refaire d'autres carrément, mais en tout cas celui-ci
c'était ça,
est un épisode super, je le mettrai dans les notes de cet épisode. Et bah écoute, c'est archi canon. Merci beaucoup.
Merci à toi, Anne-Fleur.
Et
c'était
puis,
un plaisir.
Long live le studio mobile.
Yes, j'espère. J'espère qu'on va avoir net plein de podcasts, en tout cas originaux, et que ça va pouvoir permettre à des indépendants de se lancer dans des aventures avec des podcasts chouettes, quoi.
Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Caroline, je t'adresse un grand merci d'être venue jusqu'à moi et pour ce chouette moment qu'on a passé toutes les deux. Et merci à vous, chers auditeurs et auditrices, de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, dans la vraie vie, dans votre newsletter, sur les réseaux sociaux, ça compte énormément. D'habitude, je vous parle de ce qui va arriver la semaine suivante, mais en toute honnêteté... Et tout à fait entre nous, là, tout de suite, je ne suis pas exactement sûre de ce que la suite nous réserve. Alors je vous souhaite une excellente fin de journée et j'ai hâte de vous retrouver pour une nouvelle histoire. À bientôt.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.